This is Infinite TV from Infinite Universes. Look.
J'ai un Gilles de la Tourette inversée. Je crie que des trucs très sympas. L'horreur.
Someone once told me time is a flat circle.
My log has something to tell you. Do you know it?
I don't believe we've been introduced.
Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans l'épisode 94 d'Un épisode et j'arrête, le podcast 100% série de l'ACS, l'association française des critiques de séries en partenariat avec Binge Audio. Cette semaine, nous vous emmenons dans le futur pour 30 minutes d'utopie ou de dystopie, de rêve ou de cauchemar, et pour un aller simple dans l'espace, vous allez voir ce que vous allez voir.
Next one.
That's the last one.
Anne Ligon des Fiches du Cinéma, je suis en compagnie de Constance Jamet du Figaro.
Salut.
Constance. De Marion Olité de Combini. Salut Marion.
Salut Anne.
Et d'Alexandre Bucodabas des Inroc. Salut Alexandre.
Hello.
Alors, on s'interroge aujourd'hui sur ce que vaut la science-fiction à la française. Et non, c'est pas de la science-fiction. Puisque depuis quelques années, on a vu arriver un certain nombre de séries de ce genre. En fait, pour être exact, la plupart relèvent d'un sous-genre de la SF, c'est-à-dire l'anticipation. Ou qu'est-ce que sera demain? Je pense tout le temps à Yves Simon avec ça. Qu'est-ce que sera demain, début ou la fin? Alors, qu'est-ce que sera demain pour l'humain? Est-ce qu'on pourra revivre dans un autre corps que le sien, comme dans Transfert qu'on a vu sur Arte en 2007? Ou garder son corps mais ne plus vieillir, comme dans Ad Vitam qu'on a vu l'année dernière aussi sur Arte? Et maintenant, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver l'amour, le vrai, l'unique, le durable, grâce à un implant dans le cerveau relié à une application?
Bienvenue dans Osmosis. Êtes-vous prêt à découvrir ce qu'est vraiment l'amour?
Tout le monde a une âme sœur. C'était écrit sur l'annonce et je me suis dit, même moi.
Donc, je voudrais connaître l'amour. Et pas me planter.
Salut, je m'appelle Nils. Je suis accro au sexe.
Je crois qu'avec quelqu'un que j'aime, je pourrais changer.
Avec l'aide de Martin, notre intelligence artificielle, j'ai l'immense honneur de vous présenter en exclusivité une expérience révolutionnaire pour rencontrer votre âme sœur.
Voici donc Osmosis, une série d'Audrey Fouché, 8x52 minutes, disponible sur Netflix depuis le 29 mars. Alors, une série dont on attendait beaucoup pour différentes raisons, mais aussi parce que c'est la troisième production française de Netflix après Marseille et un mignon planqueur l'année dernière. Alors, chers amis critiques, est-ce qu'avec Osmosis, on tient enfin la bonne série Netflix hexagonale? Et surtout et plus généralement, je suis impatiente de connaître votre avis sur cette série dystopique, Constance.
Alors, pour moi, je trouve que c'est petit à petit, on monte en qualité, mais c'est pas encore le top du top. Bon. Et après, si tu veux, je développerai plus sur la série, mais je vais laisser mes camarades s'exprimer avant.
Effectivement, c'est une série qui portait beaucoup d'attentes et qui aborde un des thèmes phares de la science-fiction contemporaine, qui est les relations et l'amour dans le futur, augmenté via des applications de dating ou des technologies. Mm-hmm. On a vu ça beaucoup dans Black Mirror, il y avait un épisode de Weird City aussi qui était consacré. Et là, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'en fait, on reprend exactement les mêmes ingrédients sans forcément amener quelque chose de nouveau.
Marion ?
Oui, en plus, il faut dire que Osmosis est une réinvention d'une web-série d'Arte à la base. Ouais. Qui, alors, je ne me souviens pas bien de tous les épisodes, mais c'était pas mal. Ça manquait un peu de budget, mais ça me semblait limite, en fait, plus naturaliste. Il y avait une émotion qui me semblait moins feinte que dans la version de Netflix. Donc, ouais. Du coup, c'est un peu dommage parce qu'ils ont eu beaucoup plus d'argent pour mener à bien ce projet. Mm-hmm. Mais moi, j'ai été un peu déçue. Il y a des scènes qui marchent entre les cobayes plus qu'entre les personnages principaux. Et on a toujours ce même problème, désolée de me répéter, mais moi et tous mes camarades critiques de séries, c'est pas la première fois qu'on le dit, mais vraiment un problème de dialogue, vraiment cousu ouais. De fil blanc, qui sonne faux. Et du coup, ça fait pas tatras sur les personnages, qui du coup jouent presque mal malgré eux, parce que les acteurs en soi, je pense, ne sont pas mauvais, mais tu leur fais dire des choses complètement froides, comme si c'était des robots. Enfin, c'est juste pour être dans une ambiance d'anticipation froide, ça fonctionne pas. Dans Hang the DJ, l'épisode de Black Mirror qui est consacré au Perfect Match aussi, à ce côté amour sous algorithme. En fait, les deux personnages personnages. On sent vraiment la fusion, les dialogues sont bien faits. C'est pas deux robots, c'est justement deux êtres humains qui sont perdus dans un monde un peu robotique.
Je crois que cette comparaison avec Black Mirror n'est pas à l'avantage d'Osmosis. Mais je vois Constance qui trépigne.
Enfin, moi, je trouve que, effectivement, bien sûr qu'il y a des parallèles avec Black Mirror, mais je trouve que la comparer à cet épisode de Black Mirror, à Black Mirror en général, c'est un peu un faux procès, un peu réducteur, parce que, alors peut-être que c'est un peu hors sujet pour la série, mais ce qu'elle fait de bien, je trouve, c'est qu'à un moment, elle pose la question qui, moi, j'ai trouvé intelligente de poser et qui n'a rien avec la technologie, qui est, est-ce que l'être humain peut être heureux, amoureux, ad vitam? Et je pense que ça fait partie de la nature humaine de ne pas l'être, et je pense que quelque part, ces personnages le montrent aussi. Et si cette série avait creusé ce sillon, peut-être plus que l'amour sous algorithme, je pense qu'il y aurait eu un truc à creuser qu'elle aurait pu faire sienne.
Mais ça, le problème, c'est que la série, en fait, elle explore vraiment énormément le côté technologique, l'intrusion des systèmes informatiques dans le cerveau de ces cobayes, ce qu'on risque en manipulant les données intimes, émotionnelles de chacun, mais elle creuse pas. En fait, elle remet jamais vraiment en question l'idée même de ce programme Osmosis, qui est de trouver l'âme sœur, comme si...
Il en est un petit peu question, quand même, de justement, est-ce que... La question, quand même, sur l'amour, est-ce que, finalement, si l'amour est prévu, prévisible, est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on est prêt à ça? Est-ce qu'on peut fonctionner comme ça? Il y a quand même cette question, non?
Si, elle y est à travers le personnage, notamment, de... Donc, on a Hugo Becker, qui joue un peu un espèce de Mark Zuckerberg, ou de... Enfin, non, peut-être pas, je compare à Facebook, mais non, mais comme si c'était un peu le fondateur d'un espèce de Tinder vraiment upgradé où donc c'est on nous implante une espèce de puce qui fait qu'après on va se connecter avec soi-disant donc notre âme sœur, et justement lui il y croit dur comme fer donc à cette application qu'il a créée qui est pour lui carrément quelque chose qui va changer le monde. C'est pas juste une appli quoi, hein, c'est un mode de vie, une philosophie, c'est limite une religion quoi, on y croit ou pas à Osmosis. Ça, pour ça, c'est un peu intéressant. En tout cas, il est donc en couple, grâce à Osmosis, en ayant utilisé sa propre application, avec une femme, Joséphine, il me semble qu'elle s'appelle. Ouais. Et du coup, là, ce questionnement est posé, puisque elle, sans trop révéler, en tout cas, elle n'est pas complètement convaincue par cette application Osmosis. Le problème, c'est que c'est à peine effleuré. C'est-à-dire, c'est très simpliste, le sujet de est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Est-ce qu'on peut vraiment trouver l'amour?
C'est
vraiment survolé de manière très simpliste, je trouve.
Constance.
Enfin, et pour rebondir sur ce que dit Marion, c'est aussi la problématique sur peut-on être heureux et amoureux de la même personne toute la vie. Il y a aussi un couple de cobayes qui le symbolise, parce que c'est un couple qui s'est trouvé, mais un des partenaires devient infidèle. Et je pense qu'il aurait fallu creuser vraiment ce sillon-là pour se démarquer de cette anticipation, pour pas qu'on l'assimile à Black Mirror, parce que du point de vue de l'esthétisme et de l'anticipation, ça y fait pas mal penser. Et les personnages principaux, qui sont le frère et la sœur, sont excessivement froids.
Alors,
bien qu'ils sont censés être très dépressifs, avec un traumatisme dans leur enfance, probablement. Mais c'est difficile de ressentir quoi que ce soit pour eux, et a fortiori pour leurs enjeux.
Oui, Alexandre. Non, juste, c'est vrai qu'on n'y croit pas, en fait, quand, par exemple, on les voit vraiment tristes, les deux, ou tout d'un coup, alors qu'ils sont très froids pendant tout l'épisode, il y a une scène où on va voir le personnage joué par Agathe Bonitzer au milieu d'une pièce froide, avec donc son intelligence artificielle, Martin, qui lui dit « Tu es dans le noir, tu ne vas pas bien ?» Et Agathe Bonitzer qui répond « ça va, non, ça va pas. » Et puis là, elle se met à pleurer, mais enfin, il manque un truc dans la caractérisation des personnages, ça va pas, quoi, le frère et la sœur. Et le problème, c'est que la série se centre énormément là-dessus. Moi, je préfère les cobayes. Hein.
Ouais. Alors, quand même.
Largement plus, le casting d'ailleurs est assez étonnant sur les cobayes.
Ouais, il est assez réussi, je trouve.
Plus que sur les. Alors, sur le frère et la sœur, on a quand même deux, Hugo Becker. Et Agathe Bonitzer, on a quand même deux bons acteurs. Je crois que ce que vous dites, c'est un petit peu un problème de dialogue qui fait que même eux finissent par être pas très bons. Est-ce que le casting vous a plus convaincu? Alors, notamment, il y a ce personnage de Billy qui est, on va dire, un personnage non genré et dont on ne s'attarde pas sur
son orientation sexuelle,
voilà,
ou sur son genre.
Donc, est-ce qu'il y a quelques personnages, et notamment dans les cobayes, qui ont trouvé un peu mieux grâce à vos yeux?
Il y a des rôles secondaires qui sont sur le papier plutôt intéressants, et notamment ce Billy, mais qui, je trouve, reste quand même enfermé dans... c'est un peu des personnages fonction, quoi. Billy, c'est tout le temps la personne qui va interroger les cobayes et les rassurer sur les mécanismes. C'est un petit peu, en fait, le ou la psy d'Osmosis, quelque part. Il y a, je ne me rappelle pas du nom du... pas forcément rival, mais du lieutenant principal de Paul qui gère avec lui Osmosis, ah oui. Qui est un type qui est tout le temps en chemisette à manches courtes, parce que dans le oui. futur, tout le monde porte des chemisettes à manches courtes, évidemment. Mais je trouve qu'ils sont tous un petit peu enfermés dans leur fonction de où je veux voler ta place, où je suis là pour un petit peu mettre du baume sur les blessures. Enfin, ouais. Ils évoluent pas tant que ça, ils n'existent pas vraiment autour de ces deux personnages.
Donc vous avez eu du mal à...
Moi, j'avoue que j'ai bien aimé deux des cobayes, qui est Nils et Anna, je crois.
Oui, qui est la jeune femme qui est censée incarner oui. la jeune femme au problème de surcharge pondérale.
Mais
ça.
Pas que, enfin il y a un autre truc à côté, oui, on peut pas trop le dire. Mais...
Non, mais elle en a pas en fait. C'est juste une. Enfin moi je trouve pas. Elle a du mal à accepter son corps. Voilà, ouais. Mais justement.
Elle accepte plutôt mieux que ce que je pensais, ce qu'on aurait pu avoir sur le personnage. Je pensais que ça allait être une question et ça l'est pas vraiment.
Oui, mais ça j'ai trouvé ça intéressant. Ça, je trouve que c'est ça bien. C'est vrai que on peut pas non plus dire qu'Osmosis est une bouse complètement ratée en fait, parce que le casting est assez inclusif. On a justement différents. Voilà. On a des femmes de différents typologies, de différents. On y croit quand même oui, quelque part un peu à ces personnages.
Je pense qu'il y avait une volonté de ça.
On a
oui,
des origines, de la diversité, de l'inclusivité. Donc ça c'est cool.
Ça, c'est le côté positif.
Voilà. Et notamment ce personnage d'Anna qui ne correspond pas à la beauté occidentale. Voilà, qui fait du 36, etc. On voit qu'elle est un peu complexée par ça, mais qu'en fait, il suffit que quelqu'un lui dise non, mais en fait, on s'en fout, je te désire, en fait, pour que voilà. On passe à autre chose et qu'on s'intéresse vraiment à son histoire. Donc ça, c'est intéressant. Le problème, c'est qu'encore une fois, on peut trouver des petites choses. Même sur la mise en scène aussi, on n'en a pas encore parlé, mais je trouve qu'il y a des choses assez jolies quand ils essayent de nous montrer, d'illustrer ce que c'est que Osmosis aussi, les deux êtres qui rentrent en osmose. Il y a de la recherche là-dessus que je trouve intéressante, mais c'est trop peu parce que le lien n'y est pas et parce que c'est trop tout est trop surligné et n'est pas assez creusé en profondeur.
Oui, alors sur le décor ou sur la réalisation, Alexandre.
Oui, pour revenir un peu sur le côté esthétique, je trouve, au contraire de Marion, enfin, typiquement ce genre de séquence hyper abstraite avec des personnages qui flottent dans le vide, nus. Excusez-moi, on a vu ça un milliard de fois. Enfin, on voit ça dans n'importe quel court-métrage étudiant ou de première année à la fac de ciné.
Oh, t'es dur.
Sans vouloir être méchant, mais c'est vrai, c'est quand même un petit peu une espèce de vision comme ça, de séquence rêvée qui, je trouve, ne marche pas du tout avec une esthétique très très léchée. Et j'ai aussi énormément de mal avec, et on trouve ça dans à peu près toute la science-fiction française, c'est que quand la science-fiction n'a pas trop de budget, qu'est-ce qu'elle fait pour faire croire qu'on est dans un décor du futur? C'est elle met un néon à l'arrière-plan, voilà. Un néon coloré. Je me suis amusé hier soir, j'ai terminé la série, je me suis amusé dans le dernier épisode à compter presque les plans. Alors, je n'ai pas fait tout l'épisode, mais vraiment, je crois qu'un plan sur deux, il y a un néon coloré à la fin.
C'est pas impossible.
Et même dans leurs espèces de keynote où ils présentent Osmosis écrit en espèce de néon. Enfin, excusez-moi, mais enfin. Le futur, je vois pas trop. Enfin,
beaucoup de néons et beaucoup de béton à chaque fois.
Et de verre.
Juste, ça fait un sacré contraste avec les scènes qu'on voit à l'extérieur, parce qu'en fait, Paris à l'extérieur n'a pas l'air d'avoir trop changé. Donc pourquoi pas. Enfin, on a des plans comme ça de différents monuments parisiens. On dirait qu'on est en 2019 presque. Donc pourquoi pas. On se dit c'est un futur proche. Mais après, quand on passe notre temps dans les locaux d'Osmosis, là, on a l'impression d'être en 2047, quoi. Ouais. Donc c'est vrai qu'au niveau de la cohérence esthétique, il y a un léger souci.
Prêt à investir dans Osmosis. De 12 millions d'euros pour commencer.
Très bien. Vous êtes au courant qu'on développe un produit sensible, qui est devenu une question de société?
Il y a toujours des excités pour envoyer des menaces de mort, mais ça ne nous impressionne pas.
Il nous reste quelques questions sur la structure de la société, mais rien de fondamental. Le seul point qu'il nous reste encore à préciser, ce sont les perspectives de monétisation.
Eloane, c'est ça? Qu'est-ce que vous voulez dire exactement?
Gagner de l'argent.
Et vous voyez ça comment?
C'est à vous de nous le dire, Paul. Vous avez beaucoup de données sur vos abonnés, j'imagine que vous avez envisagé de la publicité ciblée.
Bien sûr. Des spots pour les céréales, par exemple, qui apparaissent en 3D quand les gens font l'amour, avec un castor de dessin animé qui danse.
Il est évident qu'on va éviter les pubs pour céréales. Mais il y a d'autres options. Des fonctions premium, par exemple.
Alors, cet extrait, pour qu'on revienne un peu sur peut-être les sujets qui sont, sinon bien... bien fouillé, au moins effleuré, notamment. Enfin, on sent qu'il y a quand même une volonté là, peut-être, de toucher un public millénial, on va dire, sur, on l'a dit un petit peu, l'amour 2.3.0. Est-ce que vous pensez quand même qu'il y a là un intérêt thématique dans cette série?
Je sais pas, moi ça m'a pas paru finalement la thématique qui était la plus prégnante dans la série, quoi. C'est perdu dans beaucoup d'intrigues secondaires.
Ouais, le personnage de, donc c'est Nils, hein, c'est ça, le petit jeune qui est accro au porno. Au porno, alors on nous dit au porno et c'est ça le problème, tout le problème d'Osmosis.
Enfin, lui, il se présente au départ comme accro au sexe.
Oui, ben enfin, on nous montre des images vraiment qui sont pornographiques et la manière dont elles sont montrées, on nous dit tout de suite c'est négatif. Donc du coup, on mélange effectivement déjà sexualité et pornographie. C'est, enfin, les deux sont liés, mais enfin, la pornographie c'est quand même une industrie particulière qui met en scène des scènes de sexe d'une toujours à peu près toujours de la même manière. Et donc c'est une vraie question, la pornographie et la manière dont les millennials par exemple ont été comme ils sont nés avec un smartphone dans la main et un ordinateur devant et l'accès à YouPorn, etc., beaucoup plus que les générations d'avant. Mm-hmm. Effectivement, ils sont vachement influencés dans leur sexualité par le porno. Donc ça, ça aurait été un truc intéressant à creuser. Mais en fait, encore une fois, c'est fait de manière très simpliste. C'est-à-dire que donc, ce garçon va commencer à avoir une histoire amoureuse, intime avec une jeune femme. Et en fait, bah voilà, dès qu'il commence à se rapprocher d'elle un peu charnellement, on a des images qui semblent terribles parce que tout d'un coup, comme il la désire, il la sexualise comme si c'était horrible et qu'il fallait pas, alors que ben en fait c'est normal, mec. Enfin, donc du coup
il la sexualise même pas comme dans un porno, c'est plutôt des flashs.
Mais non, c'est joli.
Plutôt mignon, enfin.
C'est très esthétique.
Et d'un coup, ça devient terrible, il part en courant.
Et en fait, apparemment, c'est pas bien. Donc, ça, encore une fois, l'idée est bonne, mais en fait, c'est creusé un peu n'importe comment. Donc,
alors, est-ce qu'il n'y a pas eu un souci, vu le pool de scénaristes, finalement, qui a travaillé sur la série, puisqu'on continue à dire Audrey Fouché, mais on sait qu'il y a en fait une douzaine de scénaristes qui ont travaillé dessus. Bon, vous relevez pas mal de problèmes de narration, de dialogue.
Oui, il manque, en fait, c'est vrai, maintenant que tu le dis, là, il manque une vision d'auteur, en fait. Voilà, on a l'impression que c'est un projet un peu foutraque, mais oui, je n'avais pas checké, mais du coup, s'il y a une dizaine de scénaristes dessus et que ça a été un peu le bazar, bah, ça se ressent, en fait, dans la série.
Et trois réalisateurs qui ont fait chacun, donc, deux épisodes.
Et quatre, ouais, pour le premier. Je crois qu'elle a quitté en cours de route, c'est ça, je crois,
je crois qu'on a soigneusement évité de nous le dire, mais il semblerait.
Mais comme quoi ça se voit en fait, hein. On peut pas mettre juste un voile dessus et appeler des gens en renfort pour remplacer une personne qui était quand même au début du projet, si j'ai bien compris, quoi.
Alors bilan, avant de refermer la page sur Osmosis, là, je trouve que vous lui trouvez beaucoup de problèmes, donc globalement, vous n'êtes pas complètement convaincu et ça a relevé un peu le niveau de la production française Netflix, mais c'est pas encore ça.
Voilà, c'est bien résumé pour moi.
Okay. On est dans l'idée de, en fait, on est dans ce même cheminement de ad vitam. Il y avait des choses intéressantes, mais il y avait des choses qui marchaient pas du tout. C'était trop bancal. Transfert pareil. Mm-hmm. Donc
On en reparlera en conclusion pour la deuxième partie. Je vous propose qu'on décolle pour Mars grâce à une autre série, mais d'un tout autre genre. Être un space opéra à la française.
Quand j'étais gamine, mon père m'emmenait observer les étoiles. Chaque soir, au coucher du soleil, il me montrait ce minuscule point rouge près de l'horizon, en disant « Mars est au rendez-vous ».
Il y a 4 ans, j'ai fait le rêve d'aller sur Mars. J'y ai consacré l'essentiel de ma fortune. Je voulais découvrir un nouveau monde et accessoirement donner un sens à ma vie. Nous y voilà les enfants. Demain, nous nous posons sur Mars.
Un extrait de la bande-annonce de Mission saison 1 diffusée sur OCS en 2017 qui va revenir cette année pour sa deuxième saison. Alors avant de parler de la deuxième, je fais un petit rappel, ou si vous voulez le faire, sur l'histoire donc de la première.
Vas-y, Anne. On boit tes paroles.
Alors, c'est un milliardaire, je vais failli dire français, mais je crois qu'il est suisse, c'est ça, qui décide de financer la première expédition sur Mars avec un équipage européen et un vaisseau qui s'appelle Ulysse, si vous voyez ce que je veux dire. Et lorsque l'équipage arrive sur Mars, eh bien, c'est pour s'apercevoir qu'en fait, ils ont été doublés par une équipe américaine financée par la NASA, qui vont devoir porter secours.
Il n'y a pas que ça comme surprise aussi, d'ailleurs.
Voilà, c'est exactement ça. C'est le début d'un certain nombre de surprises qui vont se passer sur Mars. Alors, à l'ACS, on a été très conquis par cette proposition d'Henri de Berme, Julien Lacombe et Amy Cohen. Assez pour lui remettre 2 prix, celui du prix découverte 2017 à Sérimania et le prix de la meilleure production, le prix ACS 2018 de la meilleure production. Alors, est-ce qu'on peut rappeler pourquoi on a aimé et on lui a remis ces 2 prix, cette mission ou ces missions, puisque c'est au pluriel?
Les premiers épisodes que j'avais vus, j'avais été très désarçonnée parce que ça commence un peu comme un truc un peu comique. Et en fait, au bout du troisième ou quatrième, on se laisse complètement happé par quelque chose de très paranormal. Mmh. Et c'était, je trouvais que pour, quand on sait les peu de moyens dont ils ont bénéficié, quand on voit le résultat à l'image, c'est complètement bluffant, quoi. Enfin, tu sens les influences, tu sens Alien, mais...
Oui, oui, ils sont visiblement très fans de SF, ils ont des bonnes références, donc ils se servent intelligemment.
Il y a un côté très atmosphérique qui te capte. Moi, je me souviens que j'ai regardé les 6 épisodes d'une traite chez moi le soir alors qu'il était minuit, quoi. Je voulais vraiment savoir la suite.
Et puis le format aussi était plutôt cool en fait. Moi inattendu. Je crois que j'ai pas regardé beaucoup de séries de SF dans ma vie qui duraient une demi-heure ou même moins que ça. Je crois que c'est 25. Et du coup c'est vrai qu'effectivement ça donne, il y a cet effet un peu de binge watching. On a envie de, c'est facile parce qu'on se dit bon bah on en regarde 6, finalement ça prend combien de temps? 3 heures même pas. Enfin, non, je compte peut-être pas très bien. Bref.
C'est à peu près ça. C'est possible dans la soirée.
J'ai fait baccal, pardon. Donc du coup oui, le format était prêté à regarder vraiment la saison d'un coup. Et effectivement, esthétiquement, on était là face à une proposition plutôt inédite dans le paysage sériel français ces 10, 20 dernières années, à ma connaissance.
Qui était crédible avec peu de moyens.
Oui, on parlait tout à l'heure de néon au fond du plan. Là, c'est vrai que il n'y a pas un plan qui n'est pas entièrement crédible, que ce soit les scènes dans l'espace, que ce soit les scènes sur Mars, où c'est très dur de... On sent du décor pas réel martien, mais réel. Voilà,
C'est crédible.
C'est quand même très, très, très crédible. Ouais. Et puis surtout, au niveau du rythme, je trouve que les épisodes de 26 minutes font qu'il n'y a aucun temps mort dans la narration. C'est constamment relancé par de nouveaux enjeux, de nouveaux mystères. Ça traîne pas du tout, en fait.
Voilà. Bon, et alors, est-ce qu'on peut essayer d'évoquer un petit peu la saison 2 sans trop la spoiler? On en a vu donc, pour certains deux épisodes à Sérimanie en mars dernier.
Eh ben moi, donc, oui.
pas tout le monde.
Oui, parce qu'en plus, j'ai animé la rencontre avec les créateurs de Mission à Sérimania. Donc, oui, j'ai eu la chance d'en regarder même 3, pour tout vous dire. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Que c'est vraiment très, très lostien. We have to go back, en fait. La saison 2, elle commence...
Alors, ça se passe 5 ans après.
Voilà, elle commence 5 ans après.
Le retour sur Terre.
Oui, donc ça se passe après leur retour sur Terre. Et donc, ils sont tous revenus sur Terre, sauf l'héroïne qui est, je ne sais plus comment elle s'appelle.
Jeanne.
Notre amie Jeanne. Jeanne, on ne sait pas trop où elle est, mais bon, on la retrouve dans une forêt au début.
Alors, ne nous raconte pas tout. Hein,
non, mais c'est tout. Mais on la retrouve dans une forêt, en tout cas. Voilà. Et par contre, les autres personnages, ils vont trouver une bonne raison parce qu'ils n'arrêtent pas de rêver d'elle et ils se disent qu'il faut qu'ils s'y retournent. Il faut qu'ils retournent sur Mars. Donc, ils vont reformer la team et c'est reparti. Donc, quand je dis « we have to go back », c'est évidemment la référence à la saison, je crois que c'est la saison 3 de Lost.
De Lost. Où là, je les crois personnages, qu'ils s'en cachent pas. Hein,
voilà. Ah bah là, en fait, c'est vraiment in your face. Autant dans la première saison, on pouvait dire oui, vous avez un peu de sous-texte sur Lost. Autant là, c'est carrément... alors on a pris le début de la saison 3 de Lost et on s'est dit qu'on allait faire pareil. Mais bon, après, évidemment, je dis pas que c'est du plagiat du tout, parce qu'après, ça change... Mission a sa propre mythologie, ses propres personnages. Mais elle est effectivement ultra référencée.
Alors, avec de nouveaux personnages aussi au casting, qui sont plutôt pas mal. Enfin, moi, j'en ai vu 2 épisodes aussi, du coup, mais...
Je sais pas. Moi, je les trouve plutôt anecdotiques pour l'instant. Donc, il y a le personnage de la fille de Meyer,
du milliardaire.
Notre Elon Musk, là, qui...
il m'a semblé que ce qu'on lui reprochait dans la saison 1, c'était quand même un peu des problèmes de dialogue, là aussi, et de crédibilité des dialogues. Et là... par moment aussi, mais j'ai trouvé que quand même il y avait des choses mieux, non?
Ah bah pas moi. Ah par contre, oui. J'aime toujours l'univers.
Je trouvais que les nouveaux, là, ils étaient plus crédibles, que les dialogues passaient mieux, mais non, pas toi.
Non. Vraiment pas. Autant je reconnais toujours des qualités. Ce début de saison 2, il est intriguant. Il y a plein de mystères mis en place. On a envie de connaître. Il y a une nouvelle communauté qui s'appelle le Cercle. Alors on a envie d'en savoir plus sur tout ça. En revanche, au niveau des dialogues, moi je trouve que c'est terriblement cousu de fil blanc et c'est vraiment le maillon faible de Mission. Et c'est dommage qu'ils n'aient pas appris de leurs erreurs en saison 1 pour relever un peu le niveau des dialogues. Vraiment, je me suis fait la réflexion. Le problème, c'est que moi, je peux savoir ce que va répondre le personnage quand je regarde la télévision à la question que lui a posée. Oui, vraiment. Donc ça, pour moi, c'est là où le bas blesse. Mais par contre, pour le reste, au niveau de la plus-value, comment on appelle ça en anglais, la plus-value technologique, au niveau des effets spéciaux, c'est toujours assez, vraiment, dans une esthétique très léchée, très intéressante.
J'ai pas réussi.
Ils ont tourné partout en France dans cette saison 2 et on dirait vraiment pas que c'est en France. Donc c'est super, comme quoi il y a des coins incroyables. Ils sont encore dans une économie de budget même s'ils ont un peu plus de budget qu'en saison 1, qui leur a fait sortir un peu des trésors d'ingéniosité pour nous faire croire qu'ils étaient...
Comme quoi, le manque de budget, parfois, ça peut rendre créatif.
Oui, absolument. C'est pas toujours l'excuse, le mauvais budget.
Et ils ont toujours un beau générique. Je pense que c'est le même que la saison 1, il n'a pas changé. Mais très beau générique. Bon, et alors pour conclure, moi j'avais envie de vous demander ce que vous avez un peu commencé à dire, mais quelles propositions vous attendez de science-fiction à la française, Alexandre ?
Moi j'aimerais bien voir des séries de science-fiction qui se prennent un petit peu moins au sérieux ou qui soient moins franchement au premier degré. C'est quand même, on parlait tout à l'heure des séries d'anticipation et que ce soit Transfert, Trépalium ou même Ad Vitam, on est sur quand même des choses très 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 sérieuses où le sous-texte politique ou social est quand même vraiment martelé, surligné. Alors que je trouve que, on dit tout le temps dans les séries américaines, mais ailleurs en tout cas, sur d'autres planètes, on arrive vraiment à faire émerger ce sous-texte en s'accrochant davantage à des personnages, à des émotions, à de l'action. Et je pense que ce renversement pourrait se faire.
C'est ça, ça serait intéressant. Constance ?
Moi, je dirais, en pensant effectivement aux séries d'Arte que tu as citées, arrêtez de mettre du polar pour démarrer une série d'anticipation et de SF, plus de meurtre. Enfin, assumez totalement que c'est de l'anticipation et concentrez-vous sur ça.
Ouais, c'est vrai. Et moi, c'est un petit complément, mais je suis complètement d'accord avec mes petits collègues. Et du coup, moi, je pense que vraiment, il faut que, effectivement, les séries, la France se souvienne que les séries, ça doit être divertissant. Il faut nous divertir, en fait. Donc, il faut qu'on ait envie de. Mission arrive un peu à le faire. C'est bien pour ça qu'on est content et qu'on continue à regarder cette série. Le reste, effectivement, complètement d'accord, quoi. Se prend trop au sérieux et oublie de nous raconter des histoires, de nous donner envie.
Vous dites tous qu'on a du mal un peu à s'attacher d'abord. Au personnage.
Trop de néon, trop de béton.
Trop de néon, trop de béton et des personnages trop froids finalement.
Et jamais d'humour.
Et oui, complètement.
Ça manque d'humour.
De légèreté un peu, oui. L'humour, le futur peut être léger, on ne sait pas en fait, il faut arrêter de l'imaginer.
Faites-nous rêver un peu quand même.
Ah bah alors voilà, c'est.
Soyez heureux dans le futur, donnez-nous un peu d'espoir.
S'il faut passer de la dystopie à l'utopie, ça sera la conclusion. Ainsi s'achève ce numéro 94 d'un épisode et j'arrête, le podcast 100% série de l'ACS en partenariat avec Binge Audio. Osmosis est à voir sur Netflix, émission saison 1 est disponible en VOD, DVD, Blu-ray avant la diffusion de la saison 2 dans les mois qui viennent. Merci à Constance Jamet du Figaro, à Marion Olité de Combini et à Alexandre Bucodabas des Inroc. Et merci à Nicolas Jean-Jean à la technique. En attendant la semaine prochaine, vous pouvez retrouver toute l'actualité d'un épisode et j'arrête sur Facebook et sur Twitter. Abonnez-vous, likez-nous, aimez-nous, on vous aime aussi.
Next one. Whoa, wait. That's the last one.